17 août, nous allons faire la connaissance de Sainte Béatrice da Silva Menezes. Béatrice da Silva était la sœur du bienheureux Amadeu da Silva. Elle était issue d'une noble famille portugaise apparentée à la royauté du pays. Elle naquit en 1432 à Ceuta, ville du Maroc, qui était alors sous la domination des Lusitaniens, c'est-à-dire des Portugais. Béatrice était la fille de Ruiz Gomez da Silva et de Dona Isabel de Menezes, de la maison royale d'Espagne et de Portugal. Son grand-père maternel était Pedro de Menezes, comte de Viana, qui s'était distingué. Et en 1415, lors de la conquête de Ceuta, en faveur de la couronne du Portugal. En récompense, le roi lui avait accordé sa fille en mariage, unissant ainsi les deux familles. Les parents de Béatrice confièrent l'éducation de leurs 11 enfants aux franciscains qui leur donnèrent une profonde dévotion pour l'Immaculée Conception. Deux de ses frères prirent l'habit franciscain, John et Amadeo. Amadeo fonda une nouvelle branche des frères mineurs. Sa sœur Béatrice, pour obéir à son père, avait accepté de poser pour un peintre afin de réaliser, pour la chapelle du château familial, un tableau de la Vierge Marie. En effet, Béatrice était si belle que l'artiste italien retenu pour cette œuvre avait déclaré au châtelain que le plus beau modèle serait sa fille. Mais modestement, Béatrice ne leva jamais les yeux vers le peintre. Il en résulta que ce tableau fut appelé « La Vierge aux yeux clos ». En 1447, Béatrice devint une dame d'honneur de l'infante Isabelle de Portugal, lorsque cette dernière épousa Jean II de Castille. Mais la beauté et la vertu de Béatrice attiraient trop les nobles castillans qui se disputaient son amitié et son amour. Cela excita la jalousie de la reine Isabelle, qui finit par enfermer Béatrice pendant 3 jours dans une armoire. Contre toute attente, Béatrice ne mourut pas. Une fois libérée, Béatrice quitta la cour pour se réfugier à Tolède, dans le couvent de Saint-Domingo el Real. Pendant le trajet qui la conduisait à Tolède, deux frères franciscains se présentèrent à elle et lui dirent qu'elle deviendrait une grande dame et qu'elle serait la mère de nombreux enfants. Béatrice protesta, disant qu'elle avait fait le vœu de virginité. Les deux frères affirmèrent qu'il en serait comme ils venaient de dire. Puis, ils disparurent. En fait, les deux frères étaient saint François d'Assise et saint Antoine de Lisbonne ou de Padoue, envoyés par notre Seigneur pour la rassurer et l'instruire. Arrivée à Tolède, Béatrice entra dans le couvent des cisterciennes de Saint-Dominique, où elle vécut pendant près de 30 ans comme une laïque consacrée, développant une spiritualité orientée vers la Sainte Eucharistie, la Passion de notre Seigneur et l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Elle ne quitta ce couvent que pour fonder en 1484 une nouvelle communauté avec quelques compagnes. En fait, la divine providence préparait Béatrice à sa vraie vocation. La reine Isabelle de Portugal, sa persécutrice, dut se retirer à Arévalo après le décès de son époux, le roi Jean II. Sa fille, que l'on connaîtra sous le nom d'Isabelle la catholique, devint la nouvelle reine de Castille. Isabelle la catholique, couronnée en 1474 reine de Castille et d'Aragon, soutint Béatrice dans la fondation d'un nouvel ordre religieux. L'ordre de la Conception, en l'honneur de l'Immaculée Conception. Elle lui offrit son palais de Galiana à Tolède, avec l'église Sainte-Foy qui lui était annexe. Béatrice déménagea en 1484 dans sa nouvelle demeure, accompagnée de 12 compagnes, donnant naissance ainsi à la nouvelle congrégation des Clarisses Conceptionnistes, dont la règle fut écrite par Béatrice elle-même et approuvée par le pape Innocent VIII le 30 avril 1489. La tâche s'était révélée très difficile. En effet, bien que la doctrine affirmât que Marie, Mère de Dieu, était sans tache, conçue immaculée depuis le premier instant de sa conception, il n'y avait pas encore de dogme officiel. Et même, vers la fin du XIVe siècle, des controverses s'étaient développées entre les franciscains qui étaient pour et les dominicains qui étaient contre. Des discussions duraient probablement encore pendant la vie de Béatrix. Pourtant, l'Immaculée Conception était une dévotion très populaire en Espagne. En Castille, le roi Ferdinand et la reine Isabelle avaient une grande dévotion pour l'Immaculée Conception. La reine Isabelle avait même fondé 3 chapelles en son honneur à Tolède et à Séville notamment. En 1471, 8 ans avant que Béatrix ne fondât son ordre, un franciscain élevé au trône papal, Sixte IV, avait établi la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre pour toute l'Église romaine. Un an plus tard, la constitution Cum Prescelsa approuvait la messe et l'office religieux de l'Immaculée Conception. Petite remarque, Notre-Dame serait apparue à Béatrix pour lui dire qu'elle devait entreprendre sa mission. Elle portait un habit blanc et un manteau bleu. Nous avons vu ci-dessus qu'en 1483, la reine Isabelle avait offert à Béatrix un château et la chapelle attenante à Tolède pour le premier couvent de l'ordre de l'Immaculée Conception, geste très généreux en l'honneur de l'Immaculée Conception. Après avoir reçu l'habit et prononcé les vœux religieux, Béatrix s'éteignit dans le Seigneur à Tolède le 1er septembre 1490, à la veille de la profession religieuse du premier groupe du Nouvel Ordre. Elle avait été en quelque sorte l'initiatrice du travail concernant le culte et la théologie du dogme de l'Immaculée Conception qui sera proclamé 400 ans plus tard par Pie IX. Spontanément, après la mort de Sainte Béatrix, le culte de l'Immaculée Conception se répandit non seulement parmi les franciscains, mais aussi sur toute la péninsule ibérique. Béatrix fut béatifiée le 28 juillet 1926 et canonisée par le pape Paul VI le 3 octobre 1976. Voici maintenant quelques précisions sur le culte de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception n'est mentionnée dans aucun texte jugé canonique par les églises chrétiennes. Une source indirecte de cette croyance se trouve dans le protévangile de Jacques, texte apocryphe datable du milieu du IIe siècle. Anne et Joachim, les parents de la Vierge, ne peuvent avoir d'enfants. Mais un ange leur apparaît à tous deux, leur annonçant une naissance miraculeuse. Cependant, cet évangile n'affirme nullement que Marie fut exempte du péché originel. 9 mois plus tard, Marie vient au monde. Bien que non canonique, les apocryphes exercèrent une très grande influence sur la foi populaire. C'est la fête byzantine de la conception de la très sainte Mère de Dieu par Joachim et Anne, le 9 décembre, qui est à l'origine du développement d'une dévotion nouvelle en Occident. L'Immaculée Conception était déjà connue et commentée par les bénédictins anglais du Xe siècle. Cette fête fut surtout introduite en Occident à l'occasion des croisades et on la vit apparaître à l'abbaye du Bec, puis en Angleterre et à Lyon dès le XIIe siècle. Mais cette introduction se fit sans les textes ni les commentaires de la tradition byzantine. Cette nouvelle fête ne fit toutefois pas l'unanimité en Occident. Ainsi, saint Thomas d'Aquin n'y était pas favorable. Saint Bernard de Clairvaux, pourtant célèbre pour sa dévotion mariale, s'opposa en 1146 à cette pratique. La croyance ne trouva grâce aux yeux des théologiens qu'à partir du XIVe siècle et de Jean Duns-Scott. En tant que mère de Dieu, Marie ne peut, selon lui, être entachée comme les autres par le péché originel. Pendant 7 siècles, l'Occident débattit âprement de cette question. Les franciscains étaient pour la dévotion nouvelle, les dominicains contre. La Sorbonne fut même paralysée pendant 1 an par cette querelle. Le Concile de Bâle confirma la position des franciscains en 1439. Enfin, Pie IX la définit comme un dogme de foi en 1854.